Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, version estivale de l'émission. Je vous explique chaque semaine. Héloïse Goua et Sébastien Bordenave nous donneront de bonnes idées de romans jeunesse pour l'une et de bandes dessinées pour l'autre. Et à chaque fois, un libraire de l'équipe se joindra à nous pour trois bons romans. Aujourd'hui, c'est Sandrine Babu, librairie L'Instant, qui est avec nous. Et ensuite, bibliothèque, nous réécouterons des visites de bibliothèque, cette semaine celle d'Hervé Le Tellier et Barbara Schultz. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bah, on commence avec vous, Sandrine Babu, librairie L'Instant. Vous nous avez ramené quoi de la librairie ?
Des livres.
Merci.
Alors, je vous ai ramené trois romans. Je commencerai volontiers par Patagonie Route 203.
Ah oui, superbe.
Donc,
sorti il y a 2 ans à peu près.
C'est ça, il est sorti dans la collection de poche là, chez Métellier, donc un peu moins cher, toujours aussi beau. Et donc Eduardo Fernando Varela, qui nous emmène donc en Patagonie, comme le titre l'indique. Et on va se retrouver au volant d'un camion avec...
Parker,
ouais. Dont ce nom
Je
n'est peut-être pas
anodin.
Je me souviens
du nom 2 ans plus tard quand même.
Pas mal.
Mais quelle mémoire, Nicolas.
Voilà.
Je m'impressionne.
Et d'ailleurs, c'est un livre au début qui a l'air de rien. On est voilà, avec lui dans son camion. Il ne se passe pas grand-chose. C'est l'aventure, mais sans l'aventure. Quoi. Et c'est pas très drôle d'être dans un camion sur des grandes routes interminables.
Ah oui, c'est la Patagonie. Quoi. C'est tout
ça.
Droit, tout droit, tout droit, tout droit,
voilà.
Tout droit.
Et
quoi.
Beaucoup,
il y a rien
beaucoup,
autour.
Beaucoup de kilomètres. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, il va se passer quand même plein de choses très étranges. Déjà, on se rend compte qu'il a, lui, il n'a pas franchement le droit de conduire ce camion. Mmh. Il transporte des marchandises illicites dans son camion.
Il campe plus ou moins dans son camion.
Ouais, plus que ça en fait. Il sort de son camion tous ses meubles.
Voilà, il sort son canapé et tout.
Voilà,
le petit
il se construit sa petite maison à côté de son camion. Donc
chaque
c'est
soir.
Assez original. Et donc, il va quand même entrer dans cette aventure une femme parce qu'il y a une histoire d'amour dans ce livre dont je ne dévoilerai absolument pas la fin. Voilà. Et en fait, c'est un livre émaillé de rencontres improbables, de situations. Là, il y a un petit côté effectivement Amérique du Sud, un peu magique. Et il ne se passe jamais ce à quoi on s'attend. Il y a des situations parfois un peu stressantes, violentes. On se dit, oh là là, ça va mal tourner, mais ça ne tourne jamais comme on l'attend. La rencontre avec cette jeune femme dans une fête foraine est absolument magnifique. Il tombe amoureuse d'elle. Et voilà, leur rencontre a vraiment lieu dans un train fantôme, ce qui n'est quand même pas banal. elle a un mari jaloux. Donc ça, ça va peser quand même sur leur aventure. Donc... ce mari va se manifester à différents moments. Ils vont croiser. Alors, il y a des rendez-vous qu'il fixe avec un journaliste qui écrit un livre sur les nazis. Il veut retrouver un sous-marin qui serait échoué sur la côte. Et donc, ils ont des rendez-vous. Mais alors, voilà, on se voit dans 3 semaines à tel endroit. Ils ne disent même pas l'endroit. Ils se retrouvent quand même. Donc, le hasard fait beaucoup de choses dans ce livre. Voilà, donc, en fait, on est porté par cette aventure. Voilà. Moi, au début, je vous dis, j'aimais sans plus, et au fur et à mesure du livre, je ne voulais plus le quitter. D'ailleurs, je suis très triste de l'avoir terminé.
Il faut le relire.
Ça, c'est les meilleurs livres. Ouais. Ça, c'est toujours les meilleurs quand on ne veut pas les quitter. Donc, pas exclu que je le relise.
Entre Duel, Sur la route, Garcia Marquez, on ne sait pas trop où on est, ce n'est pas vraiment un thriller,
voilà.
Ce n'est pas vraiment un roman de voyage. Mais y a, moi, le souvenir que j'en ai donc, d'il y a 2 ans, c'est une impression d'immense liberté dans le paysage, quoi. Parce
ouais.
qu'on avance avec lui, c'est un roman itinérant, quoi.
Ah ouais. Et puis le climat, la météo joue un rôle important. Il y a une scène où il prend son vélo pour aller chercher une pièce pour son moteur. Donc à l'aller, il met 1 heure ou 2 heures, et au retour, il peut pas revenir parce que on voit bien le vent qui souffle, les boules de poussière avec les broussailles qui se créent. C'est très très visuel comme écriture aussi.
Vous nous rappelez le nom de l'auteur ?
Alors, Eduardo Fernando Varela, avec mon accent approximatif. Patagonie Route 203, chez Métellier.
Traduit par ?
François Gaudry.
Ah. Héloïse Goua, tiens, roman jeunesse, non ? C'est quoi aujourd'hui ?
Eh bien, on commence par un quiz. Vous savez que j'aime les quiz, alors je m'adresse à vous tous. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Lewis Hamilton, Orlando Bloom, Whoopi Goldberg, Léonard de Vinci, Alex Lutz et Erin Brockovich ?
Le QI.
Ah, vous n'êtes pas très loin, vous chauffez.
La blondeur, non.
Orlando de Bloom, j'ai connu plus blond.
Whoopi Goldberg.
Oui, Whoopi Goldberg. Oui.
Eh bien, figurez-vous que toutes ces personnalités sont dyslexiques. Ah. C'est pour ça que vous n'étiez pas très loin, Nicolas. Et ce livre dont je vous parle, c'est un livre illustré de la journaliste Guillemette Faure. Il s'intitule 10DYS et célèbre. Eh bien, il nous raconte comment toutes ces personnalités, et d'autres encore en tout, il y en a 24 dans le livre, ont transformé leur dyslexie en véritable force pour leur carrière. Alors avant de vous raconter tout ça, revenons déjà sur ce trouble. Est-ce que vous sauriez définir précisément la dyslexie ?
C'est que le cerveau ne reconnaît pas bien la forme des lettres.
C'est une contrepétrie permanente, non ? On parle, on mélange les voyelles, pas du tout, non, c'est pas ?
Si, non mais c'est ça. En fait, c'est très exactement un trouble de la capacité à lire ou une difficulté à reconnaître et à reproduire le langage écrit. Mmh, donc ouais, l'un dans l'autre, ouais, le mix de vos réponses, ça fonctionne. Alors, ça n'a rien à voir avec une déficience intellectuelle, hein, mais ça peut être handicapant parce que souvent, vous le disiez, Sébastien, les dyslexiques inversent les mots. Oui. Je vous donne un exemple, c'est le journaliste Thomas Legrand qui préface ce livre. Lui-même est dyslexique. Il raconte qu'un jour où il présentait les flash infos sur une radio locale, alors qu'il voulait parler de l'attentat qui avait eu lieu rue de Rennes dans le magasin Tati à Paris, il a dit, je cite, « le bilan de l'attentat chez Tata s'alourdit ». Quand on est à la radio, ça pardonne pas.
Sur ces sujets-là,
ouais,
en plus,
c'est pas évident.
Ça peut être chez Mélanie Gomez.
Ce trouble peut être aussi difficile à vivre pour les enfants, hein, parce que ça leur vaut souvent des moins 25 sur 20 aux dictées. Et en France, on compte tout de même aujourd'hui 1 million d'enfants dyslexiques. C'est pas un tout petit, c'est pas un problème mineur. Et là où le livre est intéressant, c'est qu'il aborde justement la dyslexie de manière très positive, puisque ce trouble a aussi pu devenir une chance pour les personnalités qui sont citées dans le livre. Mohamed Ali, par exemple, était dyslexique, mais il a développé une capacité exceptionnelle, vous le savez, à repérer des indices visuels chez ses adversaires. Un mouvement de sourcil, un déplacement d'épaule de son rival lui permettait d'anticiper les coups. Et c'est en fait sa dyslexie qui lui a permis de développer d'autres parties de son cerveau. Autre exemple avec Whoopi Goldberg, l'actrice et animatrice américaine. Elle a mis beaucoup de temps à apprendre à lire lorsqu'elle était enfant. Mais naturellement, son cerveau a appris à se souvenir de tout ce qu'elle entendait. Et du coup, elle a développé une mémoire phénoménale qui lui a bien sûr servi dans sa carrière d'actrice. Ce livre est passionnant.
Ah, je croyais que vous alliez lancer un son de Whoopi Goldberg.
Entendre la dyslexie, si, on aurait pu, mais là, ça aurait été en américain. Alors, le doubler, c'est pas facile. Non, ce livre est passionnant. Il s'adresse aux enfants dyslexiques, bien sûr, dès 8 ans, mais pas que. Hein. Il permet aussi aux parents et à l'entourage, les professeurs, par exemple, de mieux appréhender ce trouble qui reste encore assez vague dans l'esprit de la plupart des gens, sauf vous, messieurs, qui savez très bien ce qu'est la dyslexie.
Et d'ailleurs, j'aurais pu trouver la réponse à cette minute parce que j'ai déjà vendu ce livre à la librairie plusieurs fois.
Ah oui
voilà, voilà, tout à fait.
10 et célèbre, c'est chez Casterman. Ouais.
10 et célèbre, on a dit Eduardo, Fernando, Varela, Patagonie, route 203.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre, version été, continue avec Héloïse Goy pour les livres jeunesse, Sandrine Babu de la librairie L'Instant et Sébastien Bordenave et ses bandes dessinées.
Mais elle est où la librairie L'Instant ?
Elle est rue de Lourmel.
À Paris ?
À Paris.
Ah d'accord, ok.
C'est pas très loin d'Europe.
Ah bah très bien, enchanté.
Dites-nous vous, qu'est-ce que vous nous avez amené ?
Eh ben, un Johann Sfar, exactement. J'imagine que vous connaissez les comic strips, vous savez les BD en trois cases, style Snoopy. Vous connaissez les BD d'humour avec une page, une histoire, à la Gaston Lagaffe. Vous connaissez les albums classiques avec une histoire complète, genre Tintin. Vous connaissez les romans graphiques, c'est pareil, sauf que l'auteur se raconte, se met en scène. Ben là, je vous présente un carnet graphique. C'est comme si vous notiez toutes les pensées qui vous viennent 24 heures sur 24, que vous rajoutiez des dessins, où que vous soyez, avec qui que vous soyez. Des petits dessins mignons, comme des grandes fresques graphiques super bien travaillées. Alors, si c'est un dessinateur lambda, ça peut être dramatiquement ennuyeux et ostensiblement égocentrique. Mais là, c'est Johann Sfar, donc c'est juste égocentrique. Et on l'embrasse. Et on en redemande. On en redemande tellement c'est brillant.
Et vous nous en parlez tout le temps.
Ah, oui, c'est un peu le dieu de la BD en France, Johann Sfar, le dieu vivant. Donc, il a tout noté. Il a tout dessiné pendant un an et 25 jours. Ça s'appelle donc « Comment maigrir ». C'est le 17e carnet de Sfar. Et on a déjà le nom du prochain. Il sortira à la mi-octobre. Ça s'appellera « On s'en fout quand on est mort ». En attendant, je vous conseille furieusement le « Comment maigrir » qui est actuellement en librairie pour plein de raisons. Parce que sauf si vous cherchez vraiment à maigrir, parce que comme il le dit Sfar, page 167, si vous souhaitez vraiment perdre du poids, dirigez-vous vers d'autres ouvrages.
Mais il faut attendre la page 167 pour savoir tout de même.
Mais après, on s'en doute quand même en l'ouvrant. En fait, ce qui est génial avec ce carnet, c'est que ça part dans tous les sens. Il parle de ses passions qui vont du ukulélé à son chien Bretzel en passant par les jeux de rôle. Il adore dessiner les gens dans la rue qui portent leur masque sur leur menton. Il adore dessiner les jolies filles dans les bars, mais il ne leur montre pas forcément toujours les dessins parce qu'il a peur que ça leur plaise, il dit. Donc ce carnet, c'est la vie avec des moments difficiles, mais aussi des moments drôles. Comme par exemple quand il n'a pas osé dire non à Isabelle Carré. Elle lui a demandé de lui dédicacer un album de Riyad Satouf parce qu'elle les a confondus. Mais donc il a dit, enfin il l'a fait quand même. Autre moment savoureux.
On embrasse Isabelle Carré, quoi. Oui, on adore.
Exactement.
Le jeu des six, son dernier roman.
Il y a un autre moment savoureux dans le carnet, c'est que en fait Gérard Depardieu va rendre visite à Sfar, chez Sfar. Il va lui confier une anecdote de tournage avec Ornella Muti. Ils sont nus ensemble dans un lit avec un bébé, Gérard et Ornella. Souci, Ornella est indisposée et le bébé n'a qu'une obsession, tirer sur le cordon du tampon pendant le tournage, ce qui la rendait folle de colère. Alors, raconter comme ça, c'est très moyen.
C'est délicat.
Mais il faut imaginer l'anecdote racontée par Depardieu. Et c'est vrai que quand on lit la BD, on imagine la voix de Depardieu qui le raconte. Donc, ça s'appelle « Comment maigrir » de Johann Sfar. Alors, il en dessine pas mal en ce moment des carnets parce qu'il s'est fixé, comme il le dit lui-même, une règle à la con. À chaque fois que j'ai envie de prendre mon téléphone dans la main, eh ben, je prends mon carnet et je dessine. Bah, personne ne s'en plaint.
Ouais,
voilà.
Pas mal. Ouais. Bonne idée. On peut faire ça aussi en lisant un livre.
Oui, voilà, à chaque fois.
Dès que vous avez envie de prendre le téléphone,
vous prenez un livre.
Vous sortez votre livre de poche de votre poche.
Exactement.
Et il a écrit un très beau livre aussi sur son père que je vous conseille, qui est magnifique. Ouais.
Comment maigrir, Johann Sfar, chez Gallimard, bande dessinée. Merci Sébastien. Bah tiens, Sandrine Babu, puisque vous faites la maligne, qu'est-ce que vous avez d'autre?
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un livre de Jean-Baptiste Andrea, qui s'appelle 100 millions d'années et un jour. Donc Jean-Baptiste Andrea, c'était son deuxième livre. Depuis, il en a écrit un autre qui s'appelle Des diables et des saints, que je vous recommande absolument aussi. Et auparavant, il avait écrit un premier roman très beau, très poétique, qui s'appelait Marraine. Donc là, c'est son... Ensuite, il a écrit...
Marraine.
Marraine.
Ah, Marraine.
Ah oui.
Féminin de mon roi.
Voilà, d'accord.
Pas Marraine de parrain.
Donc là, il nous emmène à la montagne. Moi, j'étais une grande lectrice de Frison Roche. Donc j'ai retrouvé les frissons qu'on a à la lecture de Frison Roche, de ces livres qui se passent dans les montagnes, dans des conditions extrêmes où on ne sait pas à chaque moment si l'expédition va s'en sortir vivante. Donc ça, absolument, on le retrouve dans ce livre, mais pas que. Donc, pour en revenir sur l'histoire, c'est un paléontologue qui va monter une expédition dans les Alpes. Il entend parler de manière assez fortuite d'un homme qui serait tombé une trentaine d'années avant sur un squelette de dragon. Non, pas un dragon, mais un dinosaure, mais c'est une petite fille qui raconte ça. Et donc, il va, lui, pour plein de raisons, il a envie de partir à l'aventure, de tenter autre chose. Dans le fil du livre, on verra avec beaucoup de flashbacks ce qu'a été son enfance, son rapport à son père, à sa mère, surtout à son père qui était difficile. Il y a beaucoup de blessures chez cet homme. Et là, voilà, il veut faire ça absolument. Il va monter cette expédition. Donc, il convoque un ami à lui qui est aussi paléontologue. Il y a le guide. Son ami est accompagné d'un jeune assistant et d'une autre personne. Là, je laisse le mystère parce que c'est assez bien amené la façon dont cette cinquième personne apparaît dans l'expédition. Et donc, on va les suivre dans la recherche de cette grotte où se trouverait ce squelette de dinosaure.
100 millions d'années et un jour, c'est chez Folio.
C'est chez Folio maintenant.
Chez Folio. C'est chez Folio. Et Jean-Baptiste Andrea, qui à chaque roman monte encore un petit peu plus. C'est vraiment le parcours idéal.
Ouais. Quoi, il avait reçu un beau prix pour Des diables et des saints, je crois.
Le prix relais.
Et pour Marraine, il avait reçu énormément de prix. D'ailleurs, je l'avais reçu à la librairie. Très fier.
Et le type est très gentil.
Il n'est pas connu du tout à l'époque. Il était réalisateur de cinéma.
Il est très doux, très gentil comme garçon. Ça compte.
Oui, ça compte.
100 millions d'années et un jour. Héloïse Goua, à vous.
Je continue dans les recommandations avec une série d'albums jeunesse signés par l'auteur français le plus lu dans le monde. J'ai nommé
Antoine de Saint-Exupéry.
Non, il est encore vivant. Marc Lévy, bien sûr. Alors, vous avez peut-être déjà lu son roman Le voleur d'ombre, publié en 2010. C'est l'histoire d'un homme qui vole les ombres des gens qu'il croise pour recueillir leurs secrets. Eh bien, cette histoire, Marc Lévy l'a adaptée pour les enfants dans cette série d'albums qui s'intitule Le petit voleur d'ombre. Il y a déjà 5 volumes. C'est illustré par Fred Bernard, qui est tout de même triple Goncourt jeunesse. Alors déjà, je commence par vous citer l'épigraphe. Vous savez, c'est cette citation en début de livre du premier volume. C'est un proverbe chinois qui dit « Une personne courtoise ne marche pas sur l'ombre de son voisin ». Je trouve ce proverbe amusant.
Faut faire gaffe.
Ou alors, même si je ne sais pas tellement bien l'expliquer, je trouve que ça sonne bien. Et comme l'indique son nom, le petit voleur d'ombre, finalement, il va faire pire que de marcher sur les ombres de ses voisins, même si c'est un petit bonhomme très gentil. Alors, de quoi ça parle exactement ? On commence avec le premier tome. Le petit voleur d'ombre fait sa rentrée des classes. Il rentre en sixième et c'est pas du tout une partie de plaisir pour lui. Hein. Il a sauté une classe, c'est donc le plus jeune, donc il a pas tellement d'amis. Il se fait même martyriser par un certain Marquès qui lui fait des croche-pattes ou qui l'enferme dans son casier. Et pour ne rien arranger, c'est au même moment que son papa décide de quitter la maison, de quitter sa maman. Mais heureusement, le petit voleur d'ombre va se trouver un allié qui s'appelle Yves. Yves, c'est le gardien du collège. Et c'est grâce à Yves que le jeune garçon, eh bien, il va prendre conscience qu'il possède des super pouvoirs. Il peut recueillir les secrets les plus enfouis des gens grâce à leurs ombres qu'il côtoie. Alors tout ça, ça donnera lieu à beaucoup d'aventures, à des missions et à aussi 2-3 soucis pour le petit voleur d'ombre, parce que les gens ne comprennent pas comment cet enfant sait tout d'eux et ça a parfois tendance à les tendre, pour ne pas dire les énerver. Mais vous l'avez compris, hein, ces récits, ils abordent aussi des questions plus sérieuses, moins faciles, comme le harcèlement scolaire ou le divorce des parents. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà lu, ces albums jeunesse donnent vraiment envie de découvrir le roman original de Marc Lévy.
Je rêve, vous faites de la BD, là, vous piquez le job de Sébastien Bordenave.
Pas du tout.
Mais
c'est pas du tout
des BD.
Il y a des dessins, quand même.
Il y a des dessins, mais c'est du récit, c'est des romans jeunesse.
D'accord, ça va.
Ah oui, non, pardon, quand je dis album jeunesse, non.
On a frôlé l'intitulé problématique.
Non, mais jamais.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
La voix est libre, le retour de la vengeance, avec les chroniqueurs de la version été, Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, Loïse Goua pour les livres jeunesse, et Sandrine Babu de la librairie L'Instant. Et ben c'est à vous, Sandrine,
avec un roman
d'un auteur qu'on a reçu en plus.
Ouais, et qui a un très joli nom, il s'appelle Florent Oiseau, qui va très bien au livre d'ailleurs. Donc le livre s'appelle « Les fruits tombent des arbres », c'est chez Alary Éditions. C'est pas facile de chroniquer ce livre parce que il y a une intrigue. Il y a une intrigue, je peux pas révéler parce qu'il y en a vraiment une seule grosse intrigue. Donc si je commence à la révéler, ça perd un peu son intérêt.
C'est l'histoire d'un type qui fait un tour en bus.
Voilà, il fait un tour en bus dans Paris. Donc là, vous allez voyager dans Paris. Alors plutôt la partie nord de Paris. J'étais un peu vexée parce que moi, je suis dans le 15e. Il ne va pas jusque le 15e. Je lui ai reproché d'ailleurs. Donc j'espère que dans le prochain, il passe quand même la Seine à un moment, mais il n'y reste pas longtemps.
C'est quel numéro de bus déjà ? C'est un bus très précis.
69, pour ne pas le citer. Voilà, on ne sait pas si ce chiffre a été décidé intentionnellement ou pas, mais avec Florent Oiseau, ça ne m'étonnerait pas, qu'il y ait un petit sous-entendu sexuel. Donc, Florent Oiseau...
Il faut dire, c'est un auteur un peu à la Bukowski, Fante, c'est pas tout à fait ça, mais il y a un peu cet esprit-là parfois.
Il y a un côté comme ça.
L'errance et éventuellement une forme de décadence.
Voilà, il y a du sarcasme.
Oui, c'est très drôle.
Il y a de la poésie et il y a énormément d'humanité derrière tout ça. C'est pour ça qu'on l'aime. Voilà. Donc avec ce narrateur, d'ailleurs dont on ne connaît pas le nom, je crois, je n'arrive pas à me souvenir de son nom, il parle à la première personne. Ça commence par un homme qui meurt à l'arrêt de bus du 69, donc il tombe comme les fruits tombent des arbres en fait, d'où le titre que j'explique tout de suite. Et donc on va suivre ce narrateur dans sa vie. Alors lui, il a le culte du moyen, de l'ordinaire, mais c'est un observateur incroyable de toutes les petites choses de la vie. Et donc il regarde ce que vous ne regardez pas ou moi je ne regarde pas, donc sa voisine dans le bus, la patronne du restaurant, son voisin à la laverie, donc voilà, on le suit dans ses aventures. C'est bourré de très très jolies formules, mais ces formules, le mot n'est pas joli, mais là, de très jolies phrases. À un moment il tombe un peu amoureux, alors lui c'est toujours un peu amoureux hein, parce qu'il ne veut pas s'engager, mais il dit quand même il faut se méfier des personnes qui bousculent votre rapport au temps, parce qu'il a passé une heure et demie avec quelqu'un, il a l'impression que ça a duré une poignée de secondes.
Et je me rappelle aussi qu'il compare les lèvres d'une fille à des pneus. Et c'est un compliment. Et quand il l'écrit, lui, ça, c'est assez joli.
Voilà. Et qu'il préfère les cendriers au ciel, au crépuscule ou au ciel d'aube. Enfin, donc, c'est que des choses comme ça. Pour l'avoir fait lire à pas mal de monde, c'est...
Ah, Sébastien, là, il est motivé, là.
Ah oui, oui,
ça donne envie. C'est un livre que les gens ne lâchent pas. C'est tout. Ils prennent des notes partout, ils cornent les pages, ils le relisent. Voilà, un moment à la fois poétique, drôle et très, très, très
c'est bien. Pas son premier roman. Hein.
Non, et on peut remonter en arrière et lire ses trois précédents romans.
Paris
ils sont
Venise.
Tous excellents.
C'était bien.
Les Magnolia aussi. Alors, les Magnolia, ça se passe dans un EHPAD. On se dit, a priori, ça va pas être le livre sur lequel on va se jeter. Eh bien, si. Très, très poignant aussi, très doux. Paris-Venise, très drôle avec les mésaventures d'un je sais pas, on dit un couchettiste, enfin, quelqu'un qui s'occupe des couchettes dans le Paris-Venise, mais c'est pas l'Orient Express. Hein,
non.
mais voilà, très drôle.
Et Loïs Gouin est fan aussi de Florent Oiseau, Les Fruits tombent des arbres, c'est chez Alary. À vous, Sébastien.
Ben moi, je voulais faire un merci. Un merci à certaines maisons d'édition qui ont lancé cet été des BD en format poche. Non seulement c'est pratique à transporter pour la plage, et en plus c'est moins cher, on peut en acheter plus. Donc Futuropolis, ils en sortent 3, Casterman, ils en sortent 6, et Dargo 9. Donc bravo Dargo. Voilà, bravo.
C'est
Dargo.
Ça votre format poche?
Oui, regardez.
Ce qui est le format d'un roman grand
oui,
format.
Oui, 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 mais c'est pas une BD grand format.
Et c'est moins cher
quoi.
Qu'un, format, qu'un roman grand format.
9,50€.
Non, on peut pas le mettre dans la poche non plus.
Il faut une grosse poche.
Un baggy. Et donc, bravo Dargo. Je vais donc faire un focus sur une BD qui sort en poche chez Dargo. C'est une BD à l'origine qui est sortie en 2017. C'est Idéal Standard de Haute Picot. 9,50€, donc je le redis, en poche. Et franchement, pas cher ou pas, en poche ou pas, c'est une BD totalement géniale. Graphiquement, on dirait un peu du Sempé. C'est un peu poétique. C'est l'histoire de Claire, infirmière en néonatologie. Alors, ça concerne l'hospitalisation des nouveau-nés à terme ou les prématurés. Claire, elle a envie d'amour, elle a envie d'une belle relation. Elle n'a pas envie d'un type qui lui demande le lendemain de se rhabiller vite parce que,
c'est pas bien dit.
Pas un type non plus qui, après avoir pris son petit plaisir égoïste, s'endort et ronfle. Rajouter à ça une maman qui lui dit « Ah, c'est déjà fini avec Séraphin, Saturnin. Bon, dis donc, votre génération, elle sait vraiment pas ce qu'elle veut. » Enfin, voilà. Elle a aussi une gynéco qui lui dit « votre courbe de fécondation à 32 ans, elle est là. Hein, faut pas tarder. Merci, c'est 70€. » Voilà, bref, c'est un peu dur pour elle. Et puis tout à coup, Franck, une nouvelle relation. Est-ce que ça sera le bon? Est-ce que ça sera l'autoroute du bonheur? C'est tout le récit de la BD. Une histoire bien classique, vous allez me dire. Mais croyez-moi, c'est écrit avec subtilité, délicatesse. Cet ouvrage est la preuve qu'on peut faire une BD bienveillante et pas gnangnan, avec grand talent. En plus, les mecs en prennent pour leur grade. Et honnêtement, vu le réalisme de ce qui est décrit, ils le méritent. Idéal Standard de Haute Picot chez Dargo. Et c'est en poche. 9
version
euros, 9
grande
euros.
Poche. Oui, merci Sébastien. Héloïse. C'est à vous, avec une chanteuse.
Oui, un dernier pour la route. Je vous parle d'un livre pour enfants fait par une chanteuse que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être pour ça.
Je ne vais pas sortir, je ne vais pas me découvrir.
C'est Pomme.
Vous avez reconnu? Vous connaissiez?
Oui.
Je savais de quoi vous alliez parler aussi.
Ah oui, mais ça fallait. Artiste féminine des victoires de la musique l'année dernière, Pomme, qui j'adore ses chansons. Et aujourd'hui, je vous présente son livre qui s'appelle Sous les paupières. Il est magnifiquement illustré par son amie Pauline de Tarragon, de son nom de scène Pyjama. Elle est aussi chanteuse. Et un peu comme dans ses chansons, Pomme nous parle, à nous et aux enfants, du pouvoir des rêves. Avec la petite Sophia, qui a un pouvoir magique. Lorsqu'elle s'endort pour la sieste, un monde merveilleux apparaît sous ses paupières. Alors là-bas, les loutres sont des bateaux. J'aime bien l'image, c'est mignon. Les maisons champignons sont peuplées par des lutines. Et surtout, chacun peut se coiffer et s'habiller comme il le souhaite. Je vous cite une jolie phrase du livre. « Dans ce monde, Sophia est un peu différente, mais différente, c'est beau. » Je trouve ça très mignon, très joli. Et alors, dans cet univers magique, Sophia fait connaissance avec la fée moustache, qui, comme son nom l'indique, arbore une très jolie moustache. Avec la fée d'hiver aussi, mais d'hiver comme l'hiver, la saison. C'est une fée qui a perdu son chien. Ou encore, et ça c'est ma préférée, avec la fée ministre. En deux mots, une fée ministre qui clame haut et fort. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Je vous laisse méditer là-dessus.
Ah, c'est les 70.
Oui. Voilà. Et vous avez compris le message. Les auteurs souhaitent nous parler de tolérance et d'égalité dans ce livre. Alors, du coup, je leur ai demandé pourquoi elles souhaitaient spécifiquement s'adresser aux enfants pour faire passer ce message.
Je pense que Pauline et moi, on est toutes les deux assez révoltées par les injustices du monde dans lequel on vit. Et disons que c'était une jolie manière de canaliser de la colère qu'on a en nous et qu'on met aussi dans d'autres choses. Mais je pense que le fait de le mettre dans un livre destiné aux plus jeunes enfants, c'était comme une manière plus douce et plus teintée d'espoir de le faire.
Oui, on va aussi toutes les deux chez le psy, ce qui permet de guérir notre enfant intérieur et de savoir ce dont on a besoin dans les livres pour enfants. Par exemple, si un plus jeune, on se sentait seul, on se sentait bizarre, maintenant on l'a bien analysé et on peut le mettre dans les histoires pour d'autres enfants qui viendront après nous. C'est ça qui est assez beau en fait dans le fait de vieillir.
Elles vieillissent plutôt bien. Moi, je veux bien vieillir avec autant de rêves dans la tête. Et puis, à la fin de ce livre, on trouve un cahier de rêves à remplir et un encart de plusieurs pages à découper pour habiller Sophia comme les enfants le souhaitent. Ça s'appelle Sous les paupières. C'est de Claire Paumé. Pomme s'appelle Claire Paumé en réalité. Et de Pauline de Tarragon. Et c'est édité chez La Ville Brûle.
Ah, magnifique. Oui. Et donc, on a dit Sébastien.
Idéal standard. Chez Dargo, de Aude Picot.
Version grande poche. Et
Les fruits
Florent
tombent des arbres.
Florent Oiseau chez Alary Édition. Merci beaucoup.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de réécouter des bibliothèques tout l'été, on va faire ça, on va se réécouter des bonnes visites de bibliothèques et on commence avec celle du prix Goncourt, l'anomalie, vous vous souvenez, qui vient de sortir en poche d'ailleurs, Hervé Le Tellier, allons-y.
Alors je suis chez Hervé Le Tellier. Dans sa bibliothèque. Pour une fois, je ne lui dis pas bonjour. J'attends qu'il commence sa lecture parce qu'il est prêt et ça présente bien le personnage. Allez-y, Hervé.
C'est une prière. Notre Aubert. Notre Aubert qui es du cieux, que Saint-Plon soit parmentier, que ta volontaire soit place des fêtes, que ton règne arrive sur Voltaire comme Courcelles. Donne-nous, Gallieni, notre Havre Comartin et ne nous soumets pas à la Convention. Cambronne-nous nos défenses, que nous adhéons à ceux qui nous ont maraîchés. Délivre-nous des Halles, Miroménil.
Magnifique.
Oui, c'est un hommage au
Lippien. Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Donc, effectivement, je disais que ça vous présentait bien. Un jour, je vous ai vu en conférence et vous avez inauguré la conférence par ce texte. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que tout Hervé Le Tellier est quasiment là-dedans et dans cette manière de lire aussi. Qu'est-ce que c'est ce texte? Donc, c'est les stations de métro.
Oui, voilà. Sur les stations de métro parisiennes. C'est intéressant de plusieurs points de vue. Le premier, c'est que ça montre bien la démarche oulipienne, qui est c'est ce qu'on appelle ici une homophonie approximative. Donc c'est homophonie, donc c'est les mêmes sons, et puis c'est approximatif parce qu'on n'est quand même pas très loin, mais ça garde la musique. On garde les rimes, on garde pour la plupart des mots, on garde la rythmique, donc on remplace un mot par un mot qui a la même distance et qui se termine pareil. Et puis c'est aussi oulipien parce que ça appartient à cet univers dans lequel je me suis rendu compte que j'avais ce qu'on appelle un plagiat par anticipation. C'est-à-dire que je croyais avoir fait quelque chose de neuf, et puis comme c'est souvent le cas à l'Oulipo, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et en l'occurrence, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un ami anglais m'a dit « Mais tu sais que les pompiers sont républicains en Angleterre ?» Je fais « Quel rapport ?» Et il me dit « Mais comme les pompiers sont républicains, ils ne chantent pas le God Save the Queen. Quand ils chantent collectivement, ils ont une sorte de God Save the Queen personnel qui... En fait, utilise le nom des stations de bus, des bus londoniens. Et au lieu de dire « God save the Queen », ils font quelque chose qui ressemble vaguement à ce son-là, mais qui est uniquement constitué de noms de stations du bus.
Et ça, c'était dans votre conscient, vous pensez ?
Je pense que je ne le savais pas. Donc, c'est un vrai plagiat par anticipation, dans le sens où des gens ont fait pareil que moi, mais avant. Et ils ne savaient pas qu'ils allaient faire comme moi.
Bon, alors on en vient à votre bibliothèque. Là, on est entouré de livres, il y en a absolument partout. Je l'ai dit, en plus, il y a d'autres pièces remplies de livres.
Mais par
comment
terre même.
Ils sont classés? Par ordre alphabétique?
Oui, par ordre alphabétique d'auteur. Voilà. Ça me paraît une chose relativement raisonnable. D'abord pour s'y retrouver. Une fois qu'ils sont classés par auteur, en revanche, c'est plus confus. C'est-à-dire... Si je prends Sartre, si je prends Calvino, si je prends Paul Fournel ou Jacques Jouet, j'en ai beaucoup, j'ai du mal à savoir lequel se trouve où. Donc je fais toute la rangée pour savoir où je vais le trouver.
Mais attendez, là, je tombe sur le mystère de la chambre jaune d'Arthur Conan Doyle.
Ouais.
C'est pas le roux, la chambre jaune?
Et ben, c'est pour ça que je l'ai.
Ah, c'est une coquille?
C'est une coquille, voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Et ben, je sais pas, je trouve ça formidable.
Vous l'avez trouvé comme ça chez...
Ah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé.
C'est pas quelqu'un qui vous l'a offert en disant
non,
ça va bien.
Non, ça c'est un truc que vous trouvez. Oui, c'est un truc. Je l'ai trouvé sur les quais. Évidemment, j'imagine que les gens de Maxi Poche qui ont sorti ce truc avec Arthur Conan Doyle, le mystère de la chambre jaune, n'ont pas très bien su savoir quoi en faire. Donc ils l'ont vendu, ils l'ont bradé. Et donc ça vaut rien, mais c'est assez unique d'avoir un Arthur Conan Doyle qui est un Gaston Leroux. Voilà.
Mais donc à l'intérieur, c'est bien le mystère de la chambre
vraiment,
jaune.
C'est vraiment le mystère de la chambre jaune. Mais simplement, il y a une couverture où il y a marqué Arthur Conan Doyle.
Bon,
c'est assez rare. Hein.
Oui, c'est rare, mais il n'y a que chez vous qu'on peut trouver ça, parce que vous êtes amateur de curiosité littéraire.
Oui, mais celui-là, il est beau.
Ah oui, c'est beau. Mais pendant que vous me parliez, je le regardais en me disant, mais attends.
Alors j'ai aussi un folio.
C'est pas Conan Doyle.
J'ai aussi un folio de Proust, dans lequel, dans la table des matières, il est écrit « À l'ombre des jeunes filles en pleurs ».
Au lieu d'en fleurs.
Oui, au lieu d'en fleurs.
Mais comment ça se fait, ça?
Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui, chez Folio, lorsqu'il a rédigé la table des matières, a écrit « À l'ombre des jeunes filles en pleurs ». Et j'ai ce numéro, évidemment, formidable, j'ai ce folio-là, parce que je ne veux surtout pas le vendre, ni le rendre à quelqu'un. J'ai signalé à mon fils qu'au moment de ma disparition, que cet ouvrage-là était particulièrement remarquable.
Hervé, il y a le feu! Attention, vite, vous en prenez qu'un. Il n'y en a qu'un à sauver. Vite, lequel?
Franchement, la Bible.
Elle est où?
Elle est à côté. Pourquoi la Bible? Parce que je trouve que dedans, il y a l'Ecclésiaste. Voilà. Et si je devais sauver un texte, j'aurais l'Ecclésiaste.
Vanité, tout est vanité, c'est pour ça?
Ouais. Vanité. Moi, je ne connais pas vanité, tout est vanité. Je connais sous la forme Havel Havelim, qui est la traduction de Jacques Roubaud.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire vanité des vanités. Havel, c'est le souffle du souffle. On ne savait pas comment le traduire, donc on l'a traduit par vanité. Mais malheureusement, le mot vanité, il est polysémique. C'est-à-dire, c'est pas seulement la chose vaine, c'est aussi la vanité, le défaut. Donc c'est ambigu, alors que Havel, c'est vraiment le souffle. C'est vraiment rien du tout, quoi. Et Havel, Havelim, ça veut dire rien de rien. Mais on ne peut pas traduire par rien de rien, parce que ça évoque trop piaf. Mais sinon... C'est vraiment le terme hébreu, enfin araméen traduit, enfin on ne sait pas très bien d'où vient Kohelet, puisque c'est le texte de roi David, enfin, donc fils de David. Je pense vraiment que je prendrais la Bible.
Alors il n'y a pas la Bible mais vous avez une bibliothèque remplie d'énormes livres qui sont en fait des dictionnaires,
ouais.
Juste à votre droite, à main droite, quand vous écrivez sur votre bureau qui est juste en face de nous.
J'ai tous les Robert, expressions, locutions, citations, proverbes. J'ai le Perdé des métiers de Pierre Perret. J'ai des dictionnaires visuels, parce qu'une des difficultés qu'ont les écrivains lorsqu'on parle d'un sujet, architecture, médecine... automobile, c'est savoir de quoi sont composés les objets. Si je vous dis que dans une cathédrale, au-dessus des colonnes, il y a, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quel mot exact.
Ah oui.
Et ça ne change pas grand-chose d'utiliser le bon mot, en fait, et c'est quand même mieux. Ça...
Et là, c'est les objets qui sont décrits avec des flèches sur chaque élément pour savoir de quoi c'est composé.
Voilà.
C'est avec ça que vous avez décomposé un pistolet, non, dans l'anomalie, il me semble, non?
Oui, alors je n'ai pas utilisé ça, mais c'est vrai que dans les machines, on a une définition. Voilà. Si on regarde ceci, ça c'est quoi? Force centrifuge et centripète. Voilà. On a une roue d'entraînement, un mécanisme de séparation, un robinet d'alimentation. Évacuation du lait écrémé. Apparemment, c'est pour faire de la crème. Mmh. Voilà. On ne sait pas très bien comment on fait.
Et puis, ça vous permet ensuite de le redécrire.
Mais oui.
Alors, il y a quelques redondances dans mes visites de bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a, je trouve toujours le Comte de Monte Cristo, par exemple. Ouais. J'imagine que vous l'avez quelque part.
C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je l'ai pas. Non, mais j'ai, c'est sûr que j'ai Dumas. Quelque part, mais je ne sais pas où il est.
Ouais. Parce que justement, je trouve l'inverse aussi, parce que le Comte de Monte Cristo, tout le monde l'a lu, mais je trouve aussi souvent Ulysse de James Joyce, et on me dit, j'ai pas réussi.
Je l'ai lu.
Et alors voilà, chez Hervé Le Tellier, je me doute que ça peut changer. Alors là, il est en version originale.
Ouais. Parce que j'ai la curiosité de le voir en version originale, donc je l'ai acheté. Depuis, il a été traduit plusieurs fois. Il a été aussi retraduit par Tiphaine Samoyo et Bernard Höffner. J'ai plus la traduction ici, j'ai une autre plus ancienne.
Ça fait partie des livres qu'on a le droit de dire qu'on n'a pas réussi à le lire.
Oui, absolument.
Pourquoi? C'est une forme de snobisme inversé, c'est quoi?
C'est moins Ulysse que Finnegan's Wake. Je pense que Ulysse de Joyce, c'est lisible, et Finnegan's Wake, c'est un peu plus compliqué.
Qui est juste à côté.
Ouais, je pense.
Et alors pourquoi? C'est quoi?
Ben, c'est une manière de triturer la langue qui est très, très, très spécifique. Il se trouve que dans Finnegan's Wake, je crois, il y a un début qui m'intéressait beaucoup lorsque j'ai fait un travail sur... J'ai fait une thèse sur justement les contraintes à l'Oulipo. Et dans Finnegan's Wake, il y avait un début qui m'intéressait beaucoup.
Bon, ça commence au milieu d'une phrase.
Voilà, ça commence au niveau d'une phrase.
Au milieu d'un mot, peut-être même.
Au milieu d'un mot, voilà. Et, bon, et puis, ensuite, bon... on voit que la difficulté manchissant la courtoisie. Enfin, on voit bien que la courtoisie étant écrite en deux mots. Bon, il y a un travail sur la langue qui est absolument impossible.
Je le lis quand même pour donner un aperçu. Air revit, passe vent, Notre-Dame, d'air rive en rivière, nous recourant de via Vico par chaise percée de recirculation vers Oss Castle et environ. Sir Tristram, violeur d'ameur, manchissant la courte oisie, n'avait pas que buissé sa dérive d'Armorique du Nord sur ce flanc de notre isthme décharné d'Europe.
Voilà, alors celui-là, je ne l'ai pas fini. Je dois dire, je l'ai commencé, mais c'est un livre que je n'ai pas fini. Alors qu'au contraire,
on ne peut pas.
Non, on ne peut pas. On peut pas. C'est une folie. C'est une folie littéraire. Alors que, franchement, Ulysse de Joyce, ça se lit.
Mais quelle est sa démarche, là, dans Finnegan Wake?
Je ne l'ai pas lu en version originale, donc ça m'est très difficile d'en parler. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui reculait devant l'obscur, qui reculait devant l'abscon et qui avait un plaisir à perdre son lecteur. Voilà. Donc j'ignore le processus d'écriture, c'est ça qui m'intéresserait le plus, c'est comment il l'a écrit. Ce n'est pas tellement quel était son but, mais c'est comment il l'a écrit. Dans, ici, ce qui est intéressant dans Ulysse, c'est que ça commençait par quelque chose qui m'a intéressé tout de suite, qui était une reprise d'un texte d'Aristophane. Sans que personne le voie. Enfin, je connaissais. Voilà. Il faisait parler les grenouilles. Il faisait parler les grenouilles et ça correspond à un texte d'Aristophane qui, voilà, avec briquet, etc. Je sais pas où c'est, mais et je trouvais ça incroyable qu'un auteur puisse commencer par une moquerie d'Aristophane.
Je vois aussi des livres de poésie. Là, il y a Rimbaud qui me tombe sous les yeux.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait de la poésie aujourd'hui? Est-ce qu'on continue à en faire? Est-ce qu'on l'a modernisé? On se recroqueville justement derrière des poètes disparus. Là, on parlait de poésie. Rimbaud et de Verlaine avec François-Henri Les Érables, par exemple.
D'abord, la poésie, elle est contemporaine, quel que soit le moment où elle a été écrite. Tout à l'heure, on parlait de l'Ecclésiaste. C'est une poésie. C'est une poésie qui est absolument intemporelle, qu'on peut lire aujourd'hui comme on pouvait la lire il y a un siècle, il y a 1000 ans, ou même il y a 2000 ans. Donc, c'est la poésie, a priori, elle mérite parfois d'être retraduite, parce que c'est compliqué, par exemple, de lire des poésies comme Keats sans comprendre le contexte. C'est difficile de lire les textes originaux de Rudebeuf, il faut parfois les retraduire. Mais c'est quelque chose qui traverse les siècles. Donc, pour moi, quand j'ai lu Villon, ça a été le même choc que lorsque j'ai lu Queneau. C'est le même ordre de travail. Queneau, Ronsard, Villon, on peut remonter, on va retrouver encore d'autres textes et on va aller jusqu'à l'Ecclésiaste, justement, qui est un texte sur la vanité, sur le temps qui passe, sur le fait que les choses finissent toujours par disparaître dans le brouillard du temps. Donc il y a cette universalité de la poésie qui a toujours existé. Donc je pense que les livres de poésie peuvent se trouver les uns à côté des autres sans pour autant se choquer. C'est pas du tout gênant s'il y a Ronsard à côté de Queneau, c'est même logique. Ou Rudebeuf à côté de poésie de Leonard Cohen, par exemple. Leonard Cohen étant un grand poète contemporain.
Alors vous avez des livres sur les farces et attrapes, vous avez toute la collection du magazine littéraire, vous avez même un dictionnaire des injures, mais je crois qu'on reviendra, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. Si vous voulez bien, on reviendra l'année prochaine, par exemple, pour voir faire la suite.
Voir ce que j'aurais trié.
Merci beaucoup, Hervé Le Tellier.
Merci beaucoup.
Europe 1, 14h, 15h. La Voix est livre.
La Voix est livre, dernier chapitre, visite de bibliothèque, encore celle de Barbara Schultz. C'était chouette, on réécoute.
Bonjour Barbara Schultz.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous.
Je vous en prie.
On est très honorés. Et on est dans votre salon.
Mm-hmm.
Très beau salon avec une grande bibliothèque. On va en parler dans un instant. Très bien rangée la bibliothèque. Mais juste avant, sur la table de la salle à manger, en fait, qui est attenante, c'est le même
pièce. Ouais. C'est mon bureau.
Juste à côté, il y a un grand carton avec des post-it bleus, beaucoup de bleus, et tout en haut, des roses.
Le rose, c'est l'Égypte, le bleu, c'est la France. En fait, un truc qui veut rien dire. non, c'est le board, en fait, je sais pas comment on dit. C'est mon film, je suis en train d'écrire un long métrage, et ce sont les séquences pour avoir une vision comme ça. Sous les des séquences.
Des post-it, c'est parce que ça sert à changer les séquences justement, se dire celle-là je la mets avant, celle-là après.
Vous savez, un film ça s'écrit, je sais pas comment ça s'écrit d'ailleurs, mais j'ai pas la recette exacte. Mais moi, il y a des actes, il y a quelques règles à respecter. Alors Godard rirait là, on l'entendrait dire. Ouais. Mais bon, il y a des gens qui pensent que parfois appliquer certaines règles à l'écriture. Structure d'un film, c'est utile. Et voilà. Donc là, j'ai mes actes, j'ai la scène centrale. On voit si c'est équilibré. Là, les ronds avec le rouge, c'est un certain truc qui correspond. Voilà. Donc ça me permet de. Et quand tout d'un coup, on me dit, tel passage, mes producteurs me disent, là, c'est un peu long. Je regarde, je vois que. Est-ce que ça, j'en ai besoin? Est-ce que je peux pas le mettre là? Enfin, ça permet de. Ouais, de.
D'accord. Et vous écrivez sur la table de votre salle à manger?
Oui, enfin sur mon ordinateur, mais oui, sur la table de la salle à manger. Dans la cuisine aussi, beaucoup, le matin.
Oui, ce serait un concept d'écrire le scénario sur la table.
Sur la table, oui. Non, j'écris partout, en fait. Voilà, je suis une foraine. J'écris partout.
Ouais. Avec un parrain, puisqu'il oui. y a une petite lettre, c'est même pas une lettre, en c'est fait, un c'est mot. Une phrase, un mot, un texto de Victor Hugo encadré. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est mon porte-bonheur, en fait. J'ai reçu ça pour mon anniversaire. Et Victor Hugo a une importance dans mon scénario, voilà. Victor Hugo a pris une grande importance dans ma vie parce que j'ai lu Les Misérables pendant le confinement. Ah. J'en avais marre de lire des romans moyens.
Pour la première fois ?
Et je ne l'avais jamais lu. Et comme beaucoup de gens, je pensais ben oui. par cœur l'histoire.
C'est
et
la force des mythes, quoi.
Voilà. Tout le monde et connaît j'ai mis le nez là-dedans et ça a été un éblouissement et ça m'a fait un bien. Je ne peux pas vous dire, quand tout était un peu angoissant et ce niveau d'intelligence, de puissance, c'était un éblouissement, ça m'a apaisée. Voilà.
Et vous avez sauté les passages Waterloo, rien. Les égouts non. et tout, vous avez tout lu.
Les égouts, c'est fantastique, c'est un des passages que je préfère. Moi j'adore, vous avez pas vu, il y a plein de bouquins d'égouts, de catacombes, c'est un des passages préférés.
De momies, d'énigmes.
D'énigmes.
Vous êtes ésotérique en fait.
Oui, je sais pas, mais j'ai toujours aimé les histoires... J'aime bien je suis obsédée par la mémoire des murs, des lieux. J'aime toujours savoir qui était là avant, ce qui s'est passé là avant.
Et la mémoire des papiers, donc, parce que là, c'est hyper émouvant quand même. C'est l'écriture
ah oui, quand je l'ai reçu,
Victor
il venait d'Allemagne, l'orthographe, quand je l'ai reçu et que j'ai ouvert et que j'ai dit, oh, Victor Hugo, il a touché ce truc-là.
Par contre, il faut être bien concentré pour lire ce qui est écrit.
Trois mai Paris, je vous remercie, madame, et je mets à vos pieds tous mes voeux de succès. Victor Hugo, c'est la machine à café qu'on entend
ouais,
là derrière.
Bah super. Ouais, super. Est-ce que ça fait de l'ambiance ? C'est pour oui, ça qu'on va voir les gens, c'est pour avoir des vrais sons de la vraie vie. Ouais, voilà. Alors donc la bibliothèque oui. immense, enfin immense, ouais, très haute en fait. Quoi.
Ouais, les livres, c'est très 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 important pour moi.
Il y a même un petit escabeau pour accéder aux étages oui. supérieurs
oui. que j'ai sorti en votre honneur. Hein, d'habitude, il est rangé.
Oui, ouais. merci parce beaucoup. Que, ouais. Mais c'est bien, on va pouvoir aller fouiller un peu là-haut. Ouais. Et comment c'est rangé ?
Alors c'est rangé en bas, là les grands, c'est tous les livres de photos. J'ai une passion pour Adjet et plein d'autres, voilà, qui toujours de la mémoire des lieux, des murs. Adjet, c'est quand même le prince de ça. Et donc, j'en ai plein. Ça, c'est mes livres de photos.
Ah, moi, je ne connais pas Adjet.
Ah, quoi ? Alors, regardez, là, c'est une photo d'Adjet, justement. Là.
D'accord.
Et en fait, Adjet, c'était un photographe de la fin du 19e, début 20e. Il avait une obsession. Il ne se considérait pas du tout comme un artiste. Il se considérait comme un documentaliste. Mm-hmm. Et son obsession, c'était, au moment d'Haussmann, qui transformait tout Paris, c'était de figer Paris tel qu'il était à cette époque. Ah. Il se levait à... Et c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de photos qui sont très fantomatiques.
Ah oui, ça, c'est
parce qu'en fait, il n'y avait jamais personne. Oui, c'est le Moulin de la Galette, ça. Mmh. Et il n'y avait jamais personne sur ces photos. Ou alors, j'adore, dans ses livres, on voit parfois des gens, mais cachés derrière une fenêtre, enfin, des gens qui apparaissent comme ça. Et je ne sais pas, j'adore, moi, j'ai l'impression que c'est une petite fenêtre sur le passé. Je peux passer des heures à bugger devant une photo comme ça.
Et alors ça, c'est les livres que vous avez...
Ce qu'on m'a offert ou que j'achète et c'est les livres que je vais lire. Mais alors, il n'y a pas de... Comment dire ça se trouve, je ne les lirai jamais.
Parce
parfois,
que
il y en a qui passent
avant...
deux ans là-dedans et puis je ne les lis jamais.
Vous m'avez dit avant d'allumer les micros que donc ça, c'était une petite case pour les livres que vous n'avez pas encore lus.
Et les autres,
mais
je les ai lus.
Sous-entendu, vous avez lu toute votre bibliothèque.
Oui,
ça, c'est très rare.
Oh, oui, bah oui.
Parce que souvent, dans la bibliothèque, il y a aussi les livres qu'on aimerait lire un jour.
Oui, c'est vrai. Mais non, justement, pour m'en souvenir, je les mets là. Mais tous les autres, ouais, non, je les ai lus.
Alors,
là, il y a Colette, en fait. Donc, il y a deux rayons Colette. Parce que quand j'avais 17 ans ou 16 ans, je crois, j'ai eu une grippe. Et ma mère m'a offert Claudine à l'école. Et je me souviens, je lui jetais la gueule en disant, non, mais ça va, ouais. Comme si elle m'offrait Martine à la plage. Et là, j'ai découvert les Claudines et j'ai fait, oh, waouh. Et ça a été un éblouissement. Le jour où j'ai eu mon permis de conduire, je suis partie avec une copine en bagnole. On était à Saint-Sauveur, en Puisaye. On est tombé en pleine grève des routiers, ça a été un cauchemar ce voyage. Mais en fait, c'était super, on voulait aller voir les étangs, on parlait Colette, enfin voilà. Donc ça, tout ça, c'est Colette.
Et toute la collecte de Colette. Hein.
Toute la collecte de Colette, ouais. Et parce qu'en plus, après, j'ai acheté chez les bouquinistes des vieux livres. Et
ouais, voilà. Vous avez beaucoup de beaux livres.
Ouais, j'aime bien les vieux livres.
Là, je vois tout en haut là, la collection Nelson.
Ouais, alors ça, je les ai subtilisés au grand-père de mon premier amour, qui en avait toute une collection. Et j'avais jamais lu Alexandre Dumas. Et c'est à cause d'Alexandre Dumas que je ne suis pas tellement allée en boîte de nuit quand j'avais 18 ans.
Pourquoi ?
Parce que l'année de mai, j'avais des parents qui me vissaient un peu. Enfin, vissaient, bon, bref. Je ne suis pas sortie en boîte. En fait, on ne disait pas avant 18, quoi. Et l'année de mes 17 ans, où en fait, j'aurais pu aller en boîte de nuit, j'ai découvert Le Comte de Monte Cristo. Ah. Et là, en fait, je me souviens, on me disait, tu veux ? Et je disais, non, je ne peux pas, je dois. Et j'ai un petit moulin en Charente, à l'entrée d'un estuaire, à l'estuaire de la Gironde. Et je me mettais sur le toit avec une petite lampe et je lisais Le Comte de Monte Cristo. Mais c'est un de mes meilleurs souvenirs de... Ouais, d'adolescence. Et alors après, je les ai tous lus, quoi. Joseph Balsamo, la comtesse de Charny, Anche Pitou, j'ai l'impression d'avoir vécu le 14 juillet.
Ouais, alors tout ça, c'est le même cycle en plus. C'est le cycle révolutionnaire qui commence avec Balsamo, qui
avec
se termine
Balsamo,
avec la comtesse de Charny, plus le Chevalier Maison Rouge, voilà. Qui est un peu hors série.
Ouais, et qui est trop beau avec Louis.
Mais en fait, c'est des fresques à chaque fois, des cycles qui font 6000 pages, quoi.
Je sais, moi, mais en fait, quand c'est bon. Là, j'ai lu la biographie, comme j'étais dans mon obsession Victor Hugo, de Decaux. Il y a 1000 pages, mais j'aurais pu en lire 1000 de plus. Quoi. Quand c'est bien, c'est jamais trop
long. Ce qui est chouette, c'est qu'on est vraiment amis avec les personnages à la fin. Ou ennemis, mais on les connaît intimement.
De Dumas ?
Oui. Ah oui, quand on a lu les 5000 pages des Mousquetaires. Hein.
Mais oui, c'est la mort de... c'est celui qui meurt, c'est Porthos qui meurt. Ah non, mais c'est...
Faut pas trop en dire, ah mais...
Oui. Oh, bah, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont au courant.
Oui, c'est classique, on a le droit. Non, mais je dis ça parce que je me suis déjà fait engueuler pour l'avoir raconté, mais c'est vrai que la mort de
Porthos... Bah, si vous balancez la fin d'un polar, oui, qui vient de sortir, c'est sûr. Mais...
Et vous connaissez l'anecdote de la mort de Porthos où Dumas fils entre dans le bureau de son père qui est en train d'écrire...
Vous savez ça, Dumas fils.
Ah, mais moi, je connais que Dumas père.
Ah, mais d'accord, ok, ouais.
Dumas fils entre, son père est de dos en train d'écrire, il se retourne, il est en train de pleurer. Et donc, son fils lui dit, qu'est-ce qui se passe, papa ?
Parce que son personnage...
Et il lui dit, j'ai été obligé de tuer Porthos.
Ah, quelle heure ! Ah ouais, c'est beau, ça.
Il y a une platine vinyle aussi.
Ah oui, ça, c'est mes vinyles, voilà.
Beaucoup de vinyles.
Ouais. Voilà, que j'achète sur Discog et dans les petits machins.
Ouais, donc ils sont pas juste là parce que vous aimez les objets, vous les écoutez.
Ah bah non, ils sont là. Hein. D'accord. Qu'est-ce que j'écoutais ? J'écoutais Chet Baker, vous voyez.
Ah, il y a un clap, c'est un vrai ?
Ouais, c'est un de mes premiers tournages, un film que j'avais fait avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Et on m'avait donné le chef machinot, qui s'appelait Cyril Cunotz, m'avait donné le...
Je peux essayer ?
Allez-y. Faites-vous plaisir. Attendez, je tiens le micro. Oh, bon, c'est pas très compliqué, ouais. Allez-y.
On peut pas se pincer le doigt et tout ça.
Oh, bah, ça ferait pas bien mal, mais ouais.
Donc, Salomé.
Non, ça c'était la prod.
Alors, l'irrésolu.
Ouais. Non, c'est quoi notre autre émission déjà ?
Il faut dire quoi ?
Non, le nom de l'émission.
La voix est libre.
Voilà, la voix est libre. La voix est libre. Je sais pas, séquence 1, première. Et il faut le réouvrir tout de suite. Tac.
Pourquoi ?
Bah, je vous montre. Je sais pas. Donnez-moi ça.
Ouais, c'est un métier, moi. Je...
C'est comme ça. En fait, si vous faites, c'est le son. Connaissez-vous, vous faire.
Ah, et ça envoie le son.
Il faut que le bruit soit net. Parce que si on fait...
Ouais, ça casse, ça l'étouffe. Voilà. J'ai appris un truc. Voilà. Parfait. Il y a beaucoup d'Américains et en fait, ils sont un peu mixés avec des Français.
Oui, enfin les Français, parce que j'ai plus trop de place, j'ai s'est foutu devant, mais...
Je vois plein de livres de Philippe Jaénada.
Ah oui, je suis très fan de Jaénada. J'ai
qui
tous
donc,
ces livres.
Je rappelle, écrit des
La Serpe.
Pas que, mais La Serpe, La Petite Femelle, Le Printemps des Mots,
Soulac,
qui sont des faits divers. Il reprend l'enquête en se mettant en scène dans des parenthèses.
Mais il a l'art de la parenthèse. Il est merveilleux. Et puis, en fait, on partage... Enfin, je vous disais, j'ai l'obsession de la mémoire des murs, mais aussi des gens d'avant. Enfin, je suis très touchée par ça, quand on se rappelle des gens que tout le monde a oubliés.
Et lui, il est dans les archives tout le temps, en fait.
Et lui, il fait ça tout le temps. Et donc, j'avais découvert Philippe Jaénada quand j'ai acheté La Serpe, que j'avais dévoré. Je lui avais écrit. Il m'avait répondu, il était venu avec sa femme me voir au théâtre. Ah oui. Depuis, on s'envoie des petits mails de temps en temps. Et j'avais tout lu après. J'ai lu, j'ai lu La Petite Femelle, Soulac. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre ? Et le dernier, là, Au Printemps des Monstres, que j'ai adoré.
Ah oui, là. Vous l'avez maltraité. Hein.
Ouais, je maltraite les livres. Ouais. Ah, moi, je les corne, j'adore en fait. Je sais pas comment.
Il a vécu quoi. Il a été lu quoi. Et alors là, c'est que des romans d'aventure.
Ouais, j'adore. Ça, c'est Henri de Montfred. Quand j'ai découvert ça, ça a été fou. Voilà, ça, c'est un de mes livres préférés, Martin Eden.
C'est récits et romans mélangés quoi.
Voilà, Martin Eden, Jack London, Bruce Chatwin en Patagonie. Vous avez lu ça ? C'est dingue.
Non, j'ai pas lu.
Oh mais... C'est fou ça.
Tous les
Jules Verne, j'adore. Et la Maillard, c'est fantastique. L'île mystérieuse.
Et quand est-ce que vous l'avez rencontré, Jules Verne ?
Ah, et bah, c'était l'année de mes... C'est drôle, j'ai dit Maldives. J'étais aux Seychelles en vacances.
Il n'y a pas de hasard.
Et j'avais 21 ou 22 ans. Et j'avais emporté L'île mystérieuse, que je n'avais jamais lue.
Ah ouais.
Et j'ai toujours adoré les histoires de Robinsonade, parce que c'est quand même une île extraordinaire. Les gars, ils font naufrage sur une île, ils n'ont rien, et au bout d'un an, ils ont des armes à feu. C'est quand même, et je m'étais toujours dit, les gars, qu'il faut Koh-Lanta, ils devraient lire L'île mystérieuse, j'y serais moins con. Ça m'énerve, d'ailleurs, je regarde toujours Koh-Lanta, ils sont
quand même. J'imagine qu'ils lisent tous au moins Robinson avant de partir.
Je pense pas, non, j'ai pas l'impression, parce que parfois, je vois les images, et ils passent à côté de feuilles de manioc. Je dis, mais c'est du manioc, ça, c'est du manioc. Et ils le voient qu'ils ne le voient pas, quoi. Donc, non, je pense pas, non. Je pense qu'ils lisent pas grand chose. Alors, pardon. Hein. En tout cas, pas des bouquins, parce que là, il y a des trucs des plantes. Moi, je lirais toutes les plantes. Là,
les manuels, ouais.
Non, mais j'ai ce bouquin-là qui est super, et j'en ai un autre qui est où, mon Larousse.
Donc, sur l'île déserte, vous emportez plutôt un manuel.
Des plantes tropicales.
Nature plutôt qu'un roman, quoi.
Bah, évidemment. Bah, ouais. Les plantes tropicales, les trucs. Non, et voilà. Là-haut, il y a tout. En fait, là-haut, c'est tout ce que j'ai lu quand j'avais plutôt 20 ans. Donc là, c'était très John Fante, Jim Harrison, Howard Buten, voilà.
Les auteurs américains.
Voilà. Et là, derrière, oui, j'ai adoré les polars noirs. Donc, les Connelly, Lieberman.
Pourquoi vous mettez ça à l'imparfait ? Vous aimez plus
Depuis que j'ai eu des enfants, en fait, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait ça. Lire des trucs où on vous décrit pendant 3 pages des corps décomposés, démembrés, Ça me faisait rien du tout quand j'avais 18 ans.
Sauf si c'est désamorcé par l'humour de Jaénada.
Exactement. En fait, Jaénada, ça a été une rencontre parce que j'aime le côté enquête et le côté mystérieux. Et il y met de l'humain et de la poésie et de l'humour. Et donc là, c'est possible. Voilà.
Dernière question, il y a le feu.
Il y a le feu ?
Ouais.
Ok.
Lequel on prend ?
Victor Hugo.
Mais oui, mais lequel ?
Bah, Les Misérables.
En poche, là ?
Bah oui, je m'en fous. Ouais.
D'accord, ok.
Attendez. Qu'est-ce qu'on prend ? Il y a le feu ? Oui, parce que le poche, oui.
Bah, sauf s'il a annoté et tout, mais sinon, on peut, ça se retrouve fastoche, quoi.
Attendez, c'est compliqué. Ah, peut-être.
Bah, Nelson,
ouais, c'est ça,
un Dumas, bah, lequel
les trois,
bah, ils sont plusieurs tomes à chaque fois. En plus.
Non, mais je prends les cinq, il y en a cinq, je crois.
Bon, allez, c'est bon.
Les cinq du Comte de Monte Cristo.
Bon, je vous laisse les cinq.
Okay. Oh, bah oui, là, ça va avec, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas prendre le tome 1 qui s'arrête en plus quand il est enfermé à les Châteaux d'If. C'est impossible.
La mer est le cimetière du Château d'If. Merci beaucoup, Barbara Schultz.
Merci à vous.
Retour en studio et merci beaucoup à Barbara Schultz pour cette chouette visite. C'était la dernière page de cette Voix et Livre de l'été. Merci Héloïse, merci Sébastien.
Merci Nicolas.
À dimanche prochain et merci beaucoup Sandrine Babu, Librairie L'Instant. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix et Livre.
Nicolas Carreau.